je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Ja, guten Tag, gute Dit. Wie geht's heute Morgen? Ja, alles im Butter? Dann kann unsere Sendung losgehen, morgen mira plätzle. Bien le bonjour, chers auditeurs du 102.9. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi. J'ai fait une place à un invité que j'ai connu il y a plus de 60 ans. J'ai rencontré mon invité au concert de Hugo Offray un peu avant Noël, au Dôme de Mutzig, et juste par hasard. À la fin du concert, j'ai vu un grand homme béret vissé sur sa tête et je me suis rapproché de lui en lui demandant « Êtes-vous bien, l'abbé Glad, le prêtre ouvrier ?» Vous veniez dans notre quartier HLM de Schiltigheim, côté de la Comessa. Oui, oui, me répond-il, c'est bien moi. J'étais très heureux et très ému, tellement heureux de le revoir. Et aujourd'hui, je l'ai invité dans cette émission. Je vous le présente, c'est un homme simple, lumineux, révolté de la misère et de l'injustice, qui a mené toute sa vie d'innombrables combats. Très heureux, l'abbé Pierre. L'abbé Glatte, c'est de vous faire une place dans notre studio. Vous publiez un beau livre sur vos 1000 vies et 1000 combats. On en parlera tout au long de cette émission. Alors, comment allez-vous, l'abbé, monsieur le curé, monsieur le prêtre ouvrier?
Écoutez, je vais assez bien. À mon âge, j'ai quand même 84 ans.
Waouh, bel âge!
Et je suis émerveillé que je n'ai pas trop de problèmes de santé. J'ai des petites choses, mais c'est vraiment pas grave par rapport à ceux de mon âge.
Mais il y a quelqu'un qui veille au-dessus, dans les étoiles, quelqu'un qui veille sur vous, j'en doute.
Je pense que si je suis comme ça, c'est qu'il attend que je fasse encore des choses.
Ben, et vous en avez fait des choses dans votre vie.
Oui. Hein,
vous avez fait plein de choses. Alors, moi, j'ai de très beaux souvenirs quand vous veniez avec votre vélo, l'étendeur sur le porte-bagages, parler aux enfants modestes et pauvres de Schiltigheim, de mon quartier, rue de Gamsheim, dans les HLM. Je me souviens bien de vous.
Oui, c'était l'époque où j'étais vicaire à la paroisse Sainte-Famille de Schiltigheim.
De Schiltigheim, oui.
Entre 66 et 70, voilà.
Vous étiez en habit de ville, hein, vous n'aviez pas de soutane. Vous étiez habillé comme tout le monde.
À l'époque, on n'avait déjà plus de soutane parce que c'était après le concile.
Ah oui.
Le concile a beaucoup changé dans la vie de l'Église, la pratique des Églises, et notamment avant, la soutane était obligatoire pour tous ceux qu'on appelait prêtres. Et au concile, ils ont enlevé cela. Après, chacun pouvait faire ce qu'il veut. Encore aujourd'hui, il y a des prêtres qui choisissent de se présenter en soutane.
Vous veniez dans nos quartiers à Schiltigheim pour prêcher la bonne parole, pour nous rencontrer, pour nous amuser, pour nous dire des choses intéressantes de la vie, pour nous montrer peut-être un chemin?
Je ne me souviens pas spécialement de ce que je faisais à l'époque. Je passais dans les rues. Bien sûr, je m'intéressais à ce qui se passait. Peut-être que je parlais à l'un ou l'autre gamin, mais pas... Autrement, je l'ai rencontré au catéchisme à l'école.
Ça, c'est vrai, oui, on se rencontrait au catéchisme.
L'Exène.
Même à l'école Exène, vous veniez dans les salles de classe primaire, je m'en souviens très bien.
Oui, c'est ça.
Et vous nous parliez de lapins, de renards, de corbeaux, d'arbres. Je me souviens bien de ça.
J'avais mon petit programme de catéchisme. Je devais annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, à la fin, je faisais toujours un quart d'heure, 20 minutes d'histoires, de petites histoires que j'avais inventées, qui sont des histoires simples d'animaux qui ont leur vie, qui sont menacés et qui se mettent ensemble pour se défendre. Enfin, voilà, c'était un peu... Voilà.
C'était de l'amusement aussi. Il y avait d'abord vous prêchiez, et après c'était de l'amusement. C'était pour intéresser
pour les
gosses.
Enfants, c'était de l'amusement.
Ouais, ouais.
Mais pour moi, c'était pas neutre.
Ouais.
C'était pas des histoires.
Il y avait une idée derrière cette histoire.
Il y a une idée humaniste derrière.
Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je me souviens quand vous veniez dans notre quartier, c'était comme s'il y avait un arc-en-ciel, un rayon de lumière qui venait dans notre quartier. Vous, les enfants étaient à côté de vous, on vous parlait, vous nous disiez des choses. C'était très, très intéressant. Et tous les gamins que j'ai appelés mes amis d'enfance de ce quartier du Tsing Tsing à côté de la Comessa, par exemple Mario Wenker, mon frère, tout le monde vous connaît. Tout le monde connaît la Béglade. Vous étiez un vrai Merlin l'Enchanteur pour notre quartier.
Oui, ben, ça, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de souvenirs précis de ça.
Mais nous, les gamins, on n'oublie pas ça. Oui, on n'oublie pas quelqu'un qui vient nous raconter à l'école les petits oiseaux, les renards, les corbeaux, tout ça. C'était quand même, pour nous, c'était intéressant et important, quoi.
Oui, mais puis j'aimais ça, quoi.
Ouais, vous aimiez parler à l'autre. Vous veniez pas voir que les enfants, mais aussi les gens adultes ou les vieilles personnes.
Alors, j'avais aussi quelques vieilles personnes où je venais chaque mois apporter la communion dans le quartier là-bas. Oui, c'était aussi intéressant.
Et alors, votre lieu de vie où vous habitiez en fait dans, à Strasbourg, rue de Saint-Gothard, à l'angle de la rue de Lucerne, dans ces grandes maisons-là, avec les toits arrondis, avec des ardoises.
Oui.
Et en fait, cette maison, c'était une vraie forteresse parce qu'il n'y avait que des policiers qui habitaient là-dedans.
Non, il y avait, disons, peut-être vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, il y avait toutes sortes de gens. Mais une bonne... disons, peut-être un tiers qui étaient des policiers. Après, il y avait des administratifs, et puis il y avait des autres.
Les gens qui travaillaient à la ville, quoi, la ville de Strasbourg.
Il y avait aussi M. Schoenfelder, dont j'ai parlé dans mon livre, qui s'occupait des cœurs vaillants, qui habitait dans cet immeuble.
Dans cet immeuble, comme vous,
alors
en fait.
Il avait son magasin de photos dans la rue des Juifs.
Ah oui, je me souviens de ça. Oui. Je me souviens
bien.
Il habitait là-bas. Et alors, racontez-moi un petit peu comment on devient prêtre. Comment vous avez eu cette vocation de devenir prêtre? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire c'est pas un métier, on peut pas dire que c'est un métier, ni une fonction. Non. C'est une vocation.
Alors, il paraît que quand j'avais 6 ans, à l'époque, on habitait dans la rue Humann, à l'époque. C'était près du lycée Pasteur.
Ouais.
On appelle ça, oui. Dans des HLM aussi. Et à un moment donné, on me demandait, à 6 ans, qu'est-ce que tu devenais ? Moi, je voulais être chercheur d'or.
Excellent. Ah, c'est des rêves d'enfance, c'est génial. Et alors, l'or, vous l'avez trouvé ou pas ?
Alors, je pense que je l'ai trouvé.
Et c'est quoi ? C'est pas des lingots, c'est autre chose.
L'or, c'est la fraternité.
C'est la fraternité, c'est beau, ouais, c'est joli ça, c'est sympa. Ben ouais.
Et je l'ai trouvé dans la vie, effectivement, dans les initiatives que j'ai prises pour changer de situation, de présence aux gens et tout. C'était toujours ce fil-là. Quoi.
Ce fil, un filon d'or, on peut le dire.
Oui,
c'est un filon d'or.
La fraternité, rencontrer les gens, vivre avec les gens, là, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une rencontre, comme aujourd'hui, notre rencontre, quand on s'est rencontrés au concert du Hugo Frey.
Ah oui, mais c'est bien.
C'était extraordinaire. Je vous ai vu de loin avec votre béret, là. Je dis, mais je connais cet homme, je le sais. J'ai vu tellement de gens dans ma vie, tellement rencontré de gens. Et je me suis dit, mais je connais ce monsieur. Et je viens vous faire toc-toc-toc, vous êtes bien la Béglade. Et puis là, c'est les souvenirs d'enfance qui ont ressurgi.
Oui, alors je me rappelle bien. Vous avez dit, vous étiez dans les HLM, là.
Ouais.
Alors, j'ai dit, vous étiez dans le Tsing Tsing.
Dans le Tsing Tsing, ça s'appelait comme ça. Ah ouais. C'était des trucs, c'était juste derrière le canal là, où il y avait la Robertso, c'est là-bas que j'ai grandi.
À l'époque, cet immeuble était mal entretenu.
Oui, sans doute, mais voilà. Mais au moins à l'époque, on avait des salles de bain, on avait des toilettes à l'intérieur. Oui, c'était les années 67, 68, 60, je ne sais plus.
Ça,
Mais voilà, c'était. Puis là, vous veniez donc nous voir. Alors, vous ne m'avez pas dit exactement comment vous aviez eu cette envie de devenir prêtre parce que vous alliez. Tout le temps à l'église.
Je suis dans une famille qui était très pratiquante.
Très croyante. Très catholique, bien sûr.
Et pratiquante.
Ouais.
Notamment mon père. Mm-hmm. Mon père, lui, il était policier de la ville.
Ah, c'est pour ça, oui, bien sûr. C'est pour ça que vous habitiez là-bas, sans doute.
Oui.
Rue de Saint-Gothard.
Et un policier simple, il était dans le garage, s'occupait des véhicules et tout.
Ah oui.
Et lui, souvent, dans la semaine, il allait à la messe. Et qui était très rare pour les hommes à l'époque.
Ben oui, c'est vrai. Et il vous emmenait, en fait.
Ah non, il ne m'emmenait pas. Il ne m'a jamais rien demandé.
Ah oui, d'accord.
Non. Lui faisait ce qu'il avait envie de faire. Et puis nous, moi je suis rentré normalement. J'étais, quand je suis rentré, j'arrivais dans le quartier en 48, et je suis tout de suite entré dans les sermons de messe. Hein, j'avais 8 ans, 9 ans. 9 ans, oui. Et puis, bon, là, alors là, on avait une équipe de prêtres extraordinaire.
Dans quelle église ?
La Sainte-Madeleine.
À Sainte-Madeleine, ouais, toujours oui. Le même quartier, ouais.
Avec un curé, M. Guébus, extraordinaire. Et les quatre vicaires venaient, étaient, malgré nous, dans la Wehrmacht, et étaient envoyés en Russie, en campagne de Russie.
Ah oui.
Ils avaient vécu des choses.
Ben, j'imagine.
C'était des prêtres qui étaient vraiment, disons, marqués, disons...
Parce qu'ils ont vécu.
Ils ont vécu des choses.
Ah oui.
Et ils ne faisaient pas les malins.
Oui, je sais.
Et ils étaient bien avec les gens.
Ben, j'imagine, ouais.
On pouvait leur parler, voilà, ouais, avec ouais. Les petits comme les grands. Voilà.
Alors, Bernard, là, on parle un peu de tristesse, mais on va aussi parler un petit peu de quelque chose que vous m'aviez demandé, d'une musiquette pour reposer un peu nos oreilles. Vous aimez beaucoup Brassens et l'Auvergnat. On oui. va écouter un petit extrait de l'Auvergnat.
Ah oui, celui-là.
Ça, vous aimez,
ouais. C'est chanté souvent à vos catéchismes avec les enfants et tout ça.
Ok, Thomas, on y va. On va mettre oui. cette belle musique.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois, quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi, cette...
Ça veut dire quoi exactement, monsieur l'abbé Bernard ? Au Père éternel, tu te conduiras à travers le ciel au Père éternel. Est-ce qu'il y a une oui. vie au-delà de la vie ?
Oui.
Comment oui. Vous voyez moi, ça ? C'est quoi ? Comment vous le ressentez ?
Disons, j'ai fait le choix d'y croire. Il y en a, on peut très bien dire qu'il n'y en a pas. Hein ? Mais ça, c'est le choix de chacun.
Chacun.
Mais moi, j'ai fait le choix de croire parce que j'ai assez d'éléments disons, dans ce que j'ai découvert dans la vie concrète.
Dans la vie de prêtre, de prêtre ouvrier.
De prêtre et de normal et d'homme ouais. normal. Et puis dans ma jeunesse, j'ai dit, bon, Dieu, il existe. Et puis il nous prépare quelque chose qu'on appelle le ciel, on ne sait pas ce que c'est. Mais ça, je n'ai pas besoin de savoir.
Il y a une vie après, vous voulez dire.
Oui, ouais. Il y a une vie après. Je dirais même, il y a une vie au-delà. Je ne sais pas comment je m'expliquer.
C'est l'âme qui va...
On trouve... Moi, je me réfère toujours à l'Évangile, hein, les quatre Évangiles, la vie de Jésus. Là, il parle de vie éternelle. Ils disent, vie éternelle, c'est déjà maintenant. Ils disent ceux qui croient en Jésus-Christ et qui le suivent, qui vivent comme lui a vécu, ils vivent la vie éternelle, déjà, sur terre.
Okay.
Et dans l'au-delà, cette vie va continuer, mais d'une autre manière. C'est ça.
Revenons, c'est intéressant tout ce que vous dites. Revenons oui. un petit peu sur Terre. Là, vous avez écrit un joli recueil, un joli livre, un livre intéressant que j'ai lu avec intérêt, où je vous ai retrouvé quand j'étais petit garçon. Un livre sur votre vie, sur vos 1000 vies, sur tous les combats que vous avez menés. Vous étiez prêtre ouvrier également.
Oui, c'est ça.
Vous n'étiez jamais dans les églises à prêcher la bonne parole, mais vous l'avez fait sur les chantiers, dans les usines, avec les ouvriers, auprès d'eux. Pourquoi ce choix de vie Bernard voilà. Glade.
Alors ça, c'est une histoire, dans les pays occidentaux, surtout en France, mais aussi ailleurs, en Italie, en Espagne, qu'après la guerre, des prêtres qui ont été, par la force des choses, au milieu des gens, parce qu'ils étaient soit incorporés de force, comme les Alsaciens.
Comme mon père aussi, ça a été aussi, pour lui aussi, malgré lui, malgré nous.
Ouais. Oui, et, ou alors qui étaient en STO, travail obligatoire, Allemagne.
Oui.
Et même il y a des évêques français qui ont incité certains prêtres à être volontaires comme STO et d'aller en Allemagne pour être avec les gens là-bas.
D'accord. Mais moi, revenons un peu plus près d'aujourd'hui. Oui. Pourquoi vous aviez choisi d'être prêtre ouvrier dans les usines ?
C'est ça.
Pourquoi vous étiez près des ouvriers ?
Alors,
pour être comme eux ?
Cette expérience qu'ils ont vécue, ils ont voulu la continuer ici. Et ils l'ont fait. Il y en a une centaine après la guerre qui se sont aventurés. En disant maintenant, je vis de mon salaire, je travaille comme ouvrier, je ne suis plus payé par l'Église. Hein, et je suis avec eux. Je vis avec eux, je milite avec eux.
Mais il y a peu de prêtres qui ont fait ça. Il y a eu peu de prêtres ouvriers.
Non, il n'y en a pas. Y en a, à l'époque, il y avait une centaine.
Il y a quoi? Dans quelles années? Dans les années 70, 60?
Alors, c'était après la guerre.
Après la guerre, oui.
Et jusqu'en 54.
Ouais.
Et en 54, il y a eu des magouilles du patronat et de certains nombres d'autres personnalités qui ont incité Rome à interdire.
Donc le Vatican avait mal vu le prêtre ouvrier.
Oui,
ils en voulaient
fini.
Pas. Pourquoi?
Ben, nous, on sait pourquoi. Parce que ça gênait les patrons.
D'avoir un prêtre ouvrier dans une usine.
Parce qu'ils voyaient que des chrétiens et des prêtres même se solidarisaient avec des ouvriers qui luttent pour la justice et qui font des grèves. Et qu'il faut des manifestations, ça ne leur plaît pas. Évident.
Parce que vous incitiez un peu les gens, les ouvriers, à faire grève ou à leur dire monter un syndicat là-bas.
Non, on ne les insistait pas. On était avec eux. On est avec eux, c'est eux qui décidaient. Et on était avec eux. Oui, Alors, des fois, on avait des responsabilités syndicales. Moi, j'ai été délégué syndical dans mon entreprise.
Dans quelle entreprise ?
Ça s'appelait l'entreprise Kohler.
Kohler, c'était les cantonniers, non ? C'était le travaux publics ?
Oui, travaux publics.
Vous faisiez quoi là-bas, Bernard ?
Moi, j'ai été ouvrier sur les chantiers.
Mais comment vous étiez ?
Ben, je travaillais comme les autres. J'étais avec des Arabes, on avait des petites équipes comme ça, de 4-5. Et on travaillait, on posait des bordures, on creusait.
Des trous ? Vous faisiez des tranchées ?
On faisait des tranchées.
Pour mettre quoi ? Des canalisations dedans ?
Poser des canalisations.
Mais c'est un métier rude et dur.
Alors, c'est rude pour tout le monde. De tout le monde. Mais moi, ce n'était pas plus rude pour moi que pour les autres.
Vous auriez pu avoir une vie beaucoup plus confortable dans les églises, à prêcher la bonne parole, au chaud, et vous avez choisi la dureté de la vie.
Mais c'était ça, justement. Le problème, c'est que quand on a une vie confortable, on est en dehors du circuit.
Ouais.
On ne sent pas les choses.
Ouais.
Je prends un exemple. J'ai choisi toute ma vie de vivre en HLM. Ça fait 50 ans que j'habite dans le quartier des écrivains.
Ah oui, à Schildigheim ?
C'est sur côté Bischheim, mais c'est ce coin-là. Eh bien, hier soir, quand je suis arrivé, aucun des deux ascenseurs de la tour ne fonctionnait.
Waouh.
Ça veut dire, si on n'est pas avec les gens et voir leurs problèmes, on ne sait pas. Hein? Et alors après, on est obligé de se débrouiller pour que les ascenseurs fonctionnent.
Et donc là, vous vous débrouillez, vous appelez les HLM pour leur dire, ça ne marche pas.
Là, il y en a qui l'ont fait, je n'ai pas eu besoin de le faire. De nouveau, ce matin, il y en a qui marchaient. Mmh. Vous voyez ? Donc, mais d'autre part, des fois, bon, c'est moi qui téléphone à Otis pour qu'ils viennent le réparer.
Donc,
mais
vous êtes toujours là pour les autres ? Vous êtes toujours au service des autres ?
Mais c'est-à-dire, on est ensemble. Eux aussi, ils sont là pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a une solidarité.
Ouais.
Y a une solidarité. Ce matin, exceptionnellement, c'est extrêmement rare, la voisine de dessous est montée chez moi, me dit, écoutez, moi j'ai de l'eau sur mon balcon.
Waouh.
Et est-ce que ça vient d'ici ? Alors elle est venue examiner le balcon, moi j'avais rien. Vous voyez, des choses comme ça.
Des petites choses de la vie,
De la vie, et puis ça veut dire qu'on s'entend, on s'apprécie.
Bien sûr.
Hein, on est en fraternité.
C'est ce que vous avez fait aussi dans l'entreprise scolaire. Vous avez passé combien d'années là-bas ?
Alors, 24 ans.
Waouh, une grande partie de votre carrière, quoi.
Oui. Ouais. J'ai, dans ma vie de prêtre ouvrier, j'étais un an dans le nettoyage. Et après, j'ai trouvé cette annonce et je suis resté 24 ans. Je restais jusqu'au...
Vous étiez heureux là-bas? Est-ce qu'on peut être heureux quand on fait un métier aussi difficile?
J'étais heureux parce que j'étais content. J'étais heureux d'être avec les gens et d'être à ma place avec eux. C'était un bonheur. C'était pas assez rude, des fois, quand il fait mauvais et tout, je n'ai jamais allé au boulot à contre-cœur.
À contre-cœur. Il y avait combien d'ouvriers là-bas dans cette entreprise?
Au début, il y en avait 300.
Waouh, c'est énorme!
Oui, c'est énorme. C'était grand.
Grande entreprise.
Alors, des petites équipes de 5-6.
De 5-6. Alors, je crois que vous êtes aussi à l'origine, vous avez créé un syndicat là-bas.
Ben oui, parce que là, c'est ça. Après, je rentrais dans le 2 novembre 73 et en décembre 74, il faisait déjà mauvais, froid, on apprend que l'entreprise, elle veut prolonger l'arrêt de midi qui n'est pas payé pendant une heure.
Ah ouais.
D'une demi-heure. Soi-disant parce que les chauffeurs de camions,
ouais.
Ils arrivent en retard parce qu'ils n'ont pas le temps de manger au restaurant.
Ouais, ouais.
Eux, ils mangent au restaurant. Et nous, on était à la baraque.
De l'injustice, quoi.
Ouais. On était à la baraque. Alors, ça veut dire qu'on avait une demi-heure de plus, qu'on n'était pas à la maison. On n'était pas payé. Alors là, ça a bougé. Et alors, les copains, ils m'ont dit, écoute, on va à la CGT, et puis on va essayer de se défendre. Et c'est comme ça qu'ils m'ont choisi comme délégué syndical, et puis on a lancé l'affaire. Je suis allé à la CGT à Strasbourg, à la maison des syndicats. J'ai présenté mon cas. Ils m'ont tout de suite accueilli le délégué André Marquet, qui était bénévole, responsable de la construction.
Ah ouais.
Il m'a tout de suite accueilli. Il connaissait les prêtres ouvriers. Il m'a dit, oh, c'est bien, hop là, tu
ouais,
vois.
Ouais.
Il
ouais,
m'a
c'est
tout,
bien.
Tout expliqué.
Ouais, ouais.
Ben oui.
C'est intéressant. On va un petit peu reposer les oreilles à nouveau. On va écouter une chanson qui, vous m'avez demandé, c'est Céline de Hugo Frey. On va la mettre, après on parlera un peu du célibat, tout ça. Ok.
Ah, oui.
Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux.
En fait, tu aimes beaucoup Hugo Frey. Vous aimez beaucoup Hugo Frey, hein?
Oui.
Hein, vous étiez là, c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait.
Ah oui, ben hein, oui.
C'est vrai.
Ben
et oui, alors, ce que je voulais vous demander, Bernard, Glad, c'est le célibat. Il parle de célibat. Cette Céline s'est jamais mariée, mais vous non plus. Vous n'êtes jamais marié, vous n'aviez jamais envie d'avoir une famille avec la tendresse d'une femme. Ça, c'est des choses que vous êtes allé pas dans cette, vous n'êtes pas allé dans cette direction-là.
Ben non. Disons, à l'époque. Donc, moi, je suis comme tout le monde. Je suis fait pour être marié, hein, comme tout le monde.
Vous êtes marié avec l'Église, avec le Seigneur?
Oui, mais vraiment, moi, je suis fait marié. Humainement, je suis fait comme tout le monde. Mais j'ai trouvé qu'on pouvait aussi choisir que de vivre comme célibataire. Hein, que c'était aussi une vie intéressante, possible. Et pour être prêtre, à l'époque, il fallait être célibataire, bon.
Et aujourd'hui encore.
Aujourd'hui encore, mais on espère que ça va changer.
Vous pensez que ça changera un jour? Ah
oui,
avec
oui, oui. Ah oui, ça va changer.
Parce vous pensez?
On ne peut pas continuer comme ça.
Parce que oui. Les protestants, oui. Bah, ils peuvent se marier.
Oui.
Et aujourd'hui, il y a plus de femmes protestantes, femmes pasteurs, pardon, que d'hommes.
Pasteurs.
C'est vrai, hein,
c'est
devenu, ça s'est féminisé.
C'est très bien, ils sont au diapason de la société aujourd'hui.
Ouais. Hein?
Depuis Jésus jusque pendant 1000 ans, les prêtres étaient mariés. Hein? C'était à l'époque, au diapason de l'époque. Après, l'époque a changé, les mentalités ont changé, alors ils ont imposé le célibat. Bon, c'était bien. Mais maintenant, la mentalité a changé. pas plus grand monde n'a envie de choisir ce choix, c'est leur droit. Mais par contre, l'Église a besoin de gens qui animent les communautés.
Mais vous pensez que ça remplirait de nouveau les églises s'il y avait, si les prêtres pouvaient se marier, il y aurait plus de monde dans les églises?
Non, pas forcément. Mais ça permettrait au moins aux chrétiens de vivre correctement, parce que là, en ce moment, c'est pas une bonne solution qu'un prêtre... je prends mes copains. J'ai des copains, il sera trois dans toute la vallée de la Bruche, depuis Russe jusqu'à...
Trois prêtres
jusqu'à Salle. Ils sont à trois. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à trois dans toute cette vallée?
Ils sont pas assez nombreux, vous voulez dire, pour enseigner, pour prêcher.
Mais ils ne peuvent pas être présents aux gens. Il y a au moins 20 villages, au moins, où il devrait y avoir une célébration tous les dimanches.
Et il n'y a pas tous les dimanches?
Non, pas du tout. Pas du tout, ils ne peuvent pas.
Si on
choisit des... Il y aurait des gens mariés aujourd'hui qui pourraient accepter d'être prêtres et de faire responsable de communauté.
On appelle ça vicaire, non, quand on est marié? Comment ça s'appelle, ça, quand on est marié et on prêche? On peut faire ça ou pas dans l'Église catholique?
Pas dans l'Église catholique. Si, dans l'Église orientale.
Oh, oui, ok. Ouais,
chez les orientaux catholiques, catholiques, ils ont toujours eu des prêtres mariés.
Des prêtres mariés, ouais.
Mais pour revenir à moi, donc... Moi, j'ai donc, comme tout le monde, à partir de l'âge de 16 ans que j'ai pris la décision définitive de dire, bon, le côté attirance sexuelle, je vais mettre un trait dessus, je vais vivre comme célibataire, et ça a marché jusqu'à maintenant.
Et donc, vous étiez pleinement heureux de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de prêcher la bonne parole.
Et j'ai pas eu de... Je ne me suis pas senti frustré.
Frustré, ouais.
Pas du tout. Parce que j'avais des rencontres sympathiques avec les gens, que ce soit des femmes ou des hommes ou des enfants, et puis c'est tout. Ça me suffisait. Aujourd'hui encore.
Vous étiez là pour l'autre, tout le temps.
Ben, je suis là comme tout le monde.
et là, en fait, j'ai votre livre en main, Le prêtre ouvrier militant de la CGT. Vous avez écrit un beau livre sur votre vie, sur tout ce que vous avez traversé, tous vos combats. C'est un livre aux éditions IHS. Et c'est vous qui l'avez écrit ou quelqu'un l'a écrit à votre
place?
Alors
ça, c'est une histoire.
Ah ouais.
Il y a 4 ans avant le Covid, juste avant le Covid, les copains qui militaient avec moi à la syndicat de la construction du Bas-Rhin, Ils ont insisté, cher Bernard, ça fait longtemps que tu es avec nous. On aimerait bien que tu écrives ta vie parce qu'on a des choses qu'on voudrait savoir et qui nous posent question. Et puis ils ont tellement insisté que ils ont dit on va te payer quelqu'un, Madame Dutte.
Ah, c'est elle qui l'a rédigé, ouais.
À Madame Dutte, et avec elle, tu pourras rédiger ce bouquin. Alors j'ai dit, bon, puisqu'ils insistent beaucoup, ben moi je vais le faire, comme c'est une demande des copains. Et puis, on a fait comme ça. Hein? Alors j'écrivais pendant un an et demi, j'ai écrit des articles sur ma vie, je l'ai envoyé à Madame Dutte, qui les arrangeait, et puis voilà, on a fait comme ça.
J'aime bien parce qu'il y a un joli petit mot qui est dans ton livre, qui dit « J'irai au milieu d'eux ». Et je vivrai de leur vie.
Oui.
C'est joli, ça. C'est une belle phrase.
Alors ça, c'est pas à moi qui l'ai inventé. C'est l'Antoine Chevrier.
Ah ouais. C'est joliment dit.
Antoine Chevrier est un prêtre des années 60 de Lyon qui a fait ce choix et qui a commencer une association de prêtres pour faire ça.
Ah d'accord. Et alors, je voulais te dire, sur le livre, on voit ta photo, et t'as toujours le même regard de Merle à l'Enchanteur, de nos quartiers HLM. Merci beaucoup, Bernard, d'être venu à ce studio chez nous, à Radio Judaïka, pour raconter ta vie. J'espère que le livre, on le trouve en librairie.
Alors, c'est un problème, justement. Alors, comme l'IHS, c'est l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT, et donc... c'est eux qui l'ont publié, et eux, ils nous ont fourni 200 livres.
D'accord, donc on peut le trouver à la limite.
Non, justement, c'est le problème. On a tout vendu. Et on va recevoir dans 15 jours encore 100 livres.
D'accord.
Et on est en pourparlers pour faire une deuxième édition.
Ah ben c'est génial, tout ça va se vendre, je suis certain, c'est tellement intéressant.
Voilà.
Merci Bernard d'être venu au studio, je te remercie, et puis bonne chance, et puis beaucoup de projets encore, j'espère, et au plaisir de te revoir un jour et de te rencontrer. Au
merci,
revoir.
Merci André pour cette belle rencontre.
Voilà, c'est fini, on attend ressasser les mêmes théories. Chacun.